Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, L'Inconvénient et Québec Science. Au programme, Juan de Dion, A Star is Gone et le sable, ressource précieuse surexploitée. Bonne écoute!
Juan de Dion, A Star is Gone, un texte de Geneviève Letarte, paru dans la revue L'Inconvénient à l'été 2022. En vacances à Santa Monica, petite ville balnéaire en banlieue de Los Angeles, je m'assois le matin dans un café où résonnent les voix de jeunes serveurs et serveuses à l'accent chantant de la vallée. Installé à une table dehors, je peux voir les gens circuler sur Main Street et sentir l'air marin qui provient de l'océan deux rues plus bas. La jolie fille qui me sert un café avec de la mousse en forme de cœur me gratifie d'un sourire angélique. Les gens sont cool par ici, aussi bien dans leur habillement que dans leurs attitudes, ce qui est probablement dû à la douceur du climat californien. Ce mode relax, qui pourrait passer pour de l'insouciance, m'aurait sans doute agacé autrefois. J'étais plutôt fan de New York, de sa boulimie culturelle et de ses habitants pressés, mais je l'accueille aujourd'hui avec bonheur, tout comme le soleil qui brille à l'année. Cependant, je n'oublie pas que la misère est ici partout présente. Je l'ai vu l'autre jour dans les yeux vides d'un homme qui circulait en chaussettes à Union Station, downtown L.A. Tandis que je bois mon café en griffonnant dans un carnet, je pense à l'écrivaine Joan Didion, décédée en décembre dernier et qui était originaire de la Californie, de Sacramento plus précisément, où elle est née en 1934. Au début de la vingtaine, Didion est partie à New York, où elle a travaillé au magazine Vogue. C'est là qu'elle a commencé à écrire, là qu'elle a connu son futur mari, l'écrivain John Gregory Dunn. Avec lui, elle est retournée s'installer en Californie, dans la région de Los Angeles, qui est devenue son port d'attache, même si elle continuait à faire des allers-retours entre la côte Est et la côte Ouest, entre le monde littéraire de New York et celui du cinéma à Los Angeles. J'aurais aimé voir la maison de Malibu qu'elle a habitée plusieurs années avec Don et leur fille, Quintana, ou celle qu'ils occupaient auparavant dans Franklin Avenue à Hollywood, pas très loin, selon les critères californiens, de la rue où vivaient Polanski et Sharon Tate, à l'époque où a eu lieu le machiavélique assassinat. J'ai rêvé aussi d'interviewer Didion pour les pages de L'Inconvénient, allant jusqu'à m'imaginer conversant avec elle dans un hôtel de Beverly Hills en sirotant un martini. Mais l'écrivaine n'y est plus et je me contenterai de lui rendre ici un très modeste hommage. Joan Didion était une solide écrivaine en dépit de son corps menu, de son apparence fragile, et sa mort a suscité la parution de nombreux articles élogieux où elle a été qualifiée tour à tour de « figure de proue de la littérature du réel, le devoir » et de « new journalist who explored culture and chaos » de New York Times. La New York Reviews of Book l'a pour sa part nommée « Our Lady of Deadpan ». Le mot « deadpan » a de quoi intriguer. Réfère-t-il à l'air impassible que Didion affiche souvent sur les photos ou à son regard littéraire qui ne s'émeut pas pour rien? Chose certaine, Didion était une essayiste et une chroniqueuse exceptionnelle qui savait allier l'intime et le social et s'exprimait dans une langue à la fois sobre et incisive, « sharp ». À la fois très politique et très littéraire, elle avait une façon directe de voir et de dire les choses, mais en recourant à maints détails concrets en bonne conteuse. « We tell ourselves stories in order to live », affirmait-elle. Une phrase apparemment banale, mais qui touche à un aspect primordial du travail de Didion. Elle écrivait pour scruter la société, mais aussi pour faire de l'ordre dans son chaos mental ou psychologique, un exercice qui, pour elle, passait par la narration d'anecdotes en tout genre. Auteure de plusieurs romans, pièces de théâtre et scénarios de films, dont « The Panic in Needle Park » et la version de 1976 de « A Star is Born », écrit en collaboration avec son mari, Joan Didion est surtout connue pour son approche très personnelle de l'écriture essayistique, d'où son lien avec l'école du New Journalism, où la subjectivité et la plume littéraire de l'auteur comptent tout autant que les faits rapportés ou analysés. J'ai replongé récemment dans The White Album, un recueil d'essais qui m'apparaît comme emblématique de sa démarche, de sa manière et de ses objectifs littéraires. Paru en 1979, ce livre a été traduit tardivement en français. Il a été intégré dans le recueil « L'Amérique, chronique, Grasset 2009 », où l'on retrouve également des extraits d'autres ouvrages. Si « L'album blanc » m'apparaît comme une œuvre phare de Didion, c'est qu'il encapsule tout ce qui a fait la marque de l'écrivaine. Un œil acéré qui observe le réel, doublé d'un esprit légèrement décalé. Une aptitude à faire cohabiter l'observation de la société et celle de la vie intime, et une propension à réunir sous un même titre des textes hétéroclites mais reliés par une thématique, une époque ou un lieu. Didion nous parle ici des années 60 et 70, de la Californie, du rapport à l'écriture, de la migraine, de Sharon Tate et de la famille Manson, des campus américains et du célèbre Sunset Studio où les Doors enregistraient leur musique. Je vous rappelle que vous écoutez Joan Didion, A Star is Gone, un texte de Geneviève Letarte, paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. Si certains de ces recueils sont tout aussi hétéroclites que The White Album, dont Slouching Towards Bethlehem, 1968 et After Henry, 1992, d'autres s'organisent plus précisément autour d'un sujet, comme Salvador, 1983, où l'auteur s'intéresse à l'implication des États-Unis dans la guerre civile au Salvador. Miami, 1989, dans lequel elle explore les réalités sociales de cette ville où la violence et le racisme sévissent sous le soleil. Et South and West, 2017, qui réunit deux carnets de voyage datant de 1970, l'un où Didion sillonne la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama pour essayer de comprendre le Sud profond, et l'autre où elle se rend au procès de Patty Hearst à San Francisco, effectuant ainsi un pèlerinage à travers sa Californie natale. Mais dans tous les cas, on constate chez Didion un vaste éventail d'intérêts, une quantité de thèmes qu'elle se plaît à investiguer comme une journaliste mène son enquête, qu'il s'agisse de faits personnels tels qu'une crise de migraine, la tenue d'un carnet de notes, une visite à 14 ans chez la fille du gouverneur de Californie ou d'événements historiques ou sociaux, comme la guerre du Vietnam, les émeutes de Watts, les 5 de Central Park, ou encore de l'évocation de figures emblématiques telles que Doris Lessing, Georgia O'Keeffe, Eldridge Cleaver ou Jim Morrison. Longtemps connue surtout des milieux littéraires et intellectuels, Didion rejoint un plus large public avec The Year of Magical Thinking, 2005, récit autobiographique qui a eu un immense succès et dont la traduction française, L'année de la pensée magique, Grasset 2007, lui a valu le prix Médicis Essai. Didion y relate la mort soudaine de son mari, suivie de l'hospitalisation non moins soudaine de sa fille, et elle effectue au fil des pages un douloureux travail de deuil, qu'elle documente à la fois avec l'objectivité d'une journaliste menant des recherches sur un sujet donné et avec la fibre émotive d'une femme qui tente de soigner sa douleur par l'écriture. Dans ce livre, se côtoient des éléments factuels, des informations scientifiques, des anecdotes personnelles et l'exploration d'un labyrinthe émotionnel qui ne verse jamais dans le sentimentalisme. en rapportant de manière détaillée et quasi détachée les événements ainsi que sa façon d'y réagir, l'auteur effectue un double mouvement qui consiste à livrer ses émotions tout en s'en distanciant pour leur conférer une valeur universelle. Il en résulte un document troublant, dans lequel peut se retrouver quiconque a vécu une perte importante et qui demeure une référence incontournable dans ce qu'on appelle la littérature du deuil. Ainsi, écrit Didion, les gens qui ont récemment perdu quelqu'un ont un air particulier, que seuls peut-être ceux qui l'ont décelé sur leur propre visage peuvent reconnaître. Je l'ai remarqué sur mon propre visage et je le remarque à présent sur d'autres. C'est un air d'extrême vulnérabilité, une nudité, une béance. Quelques années plus tard, l'écrivaine affronte un nouveau drame, soit la mort prématurée de sa fille, Quintana Roo Dunn, à l'âge de 39 ans. Didion en fera état dans un autre récit autobiographique qui aura la faveur du public. Blue Nights, 2011, traduit en français sous le titre « Le bleu de la nuit », Grasset, 2013. À partir de l'événement qui s'impose à elle, auquel se superpose le drame vécu auparavant, la mort de son mari, l'auteur réfléchit à sa relation avec sa fille adoptive, à son rôle de mère, au mystère de l'enfance et de la création et, de manière plus générale, à la perte, au deuil et à la vieillesse. À la fin de sa vie, Didion vivait seul dans un appartement de Manhattan, atteinte du Parkinson, qui affectait ses facultés motrices et rendait ses mouvements curieusement saccadés. Elle n'en a pas moins continué à travailler, notamment à l'adaptation théâtrale de « The Hero of Magical Thinking », une pièce solo mettant en vedette Vanessa Redgrave dans le rôle de l'auteur. Didion a également collaboré au documentaire « Joan Didion, The Center Will Not Hold », réalisé par son neveu Griffin Dunn, Netflix 2017. En plus d'entretiens récents où elle parle de son travail et de sa démarche, le film réunit quantité de photos et de films d'archives qui retracent le parcours de l'écrivaine et où l'on constate que, en plus d'être une auteure essentielle et une ardente chroniqueuse de l'Amérique, Didion était sans conteste une figure iconique de la culture américaine, une sorte de star qui, comme toutes les stars, en fréquenta beaucoup. Sur ses photos de jeunesse, elle apparaît très belle, avec son visage fin, ses longs cheveux lisses, ses yeux ronds, sa bouche sensuelle mais sérieuse, offrant à la caméra un look éminemment cool, typique des années 70. Elle pose en longue robe moulante près de sa Corvette jaune ou dans son salon de Malibu, pieds nus et cigarette à la main, en compagnie de John, de Quintana et de leur chien, ou encore en haut d'un long escalier en bois surplombant la mer, cheveux au vent et verre d'alcool à proximité. Or, derrière ces images glamour, se trouvait une écrivaine rigoureuse dont la ligne de vie n'a cessé d'être intrinsèquement liée à son travail et qui revendiquait l'idée que la capacité de penser par soi-même dépend de la maîtrise de la langue. C'était Joan Didion, A Star Is Gone, un texte de Geneviève Le Tarte, paru dans L'Inconvénient à l'été 2022.
Le sable, ressource précieuse surexploitée. Un texte d'Annie Labrecque paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science. Le sable est l'ingrédient de base d'une myriade de matériaux. On le croyait inépuisable, mais on pourrait bientôt en manquer. Negril, en Jamaïque, a tout d'un paradis. Mer turquoise, kilomètres de plage, falaises photogéniques, complexes hôteliers chics, chaises longues qui vous appellent. mais ce n'est pas pour profiter du soleil que le chercheur Pascal Pétouzi s'y trouvait en 2012. Il essayait plutôt de comprendre ce qui provoquait l'érosion des côtes. Son équipe avait été mandatée par le gouvernement jamaïcain pour se pencher sur le phénomène, car celui-ci menaçait les plages et donc le secteur touristique. Avec ses collègues, il a rapidement trouvé l'origine du problème. Des villageois rapportaient que des gens armés allaient sur la plage la nuit pour ramasser du sable. Je me suis demandé comment on pouvait en venir aux armes pour voler cette ressource, confie le professeur du département F.A. Forel des sciences de l'environnement et de l'eau de l'Université de Genève. Après l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus exploitée de la planète. Il est indispensable dans la fabrication du béton et de l'asphalte, qui accapare le plus gros de la demande. Il sert à produire du verre, des fenêtres, des panneaux solaires, des puces électroniques, des microprocesseurs et bien plus encore. Tant et si bien qu'on estime la consommation mondiale de sable à environ 18 kg par personne par jour ou 50 milliards de tonnes annuellement. C'est énorme. C'est comme si l'on construisait un mur de 27 mètres sur 27 tout autour de l'équateur terrestre, chaque année, s'exclame Pascal Pédouzi. Son séjour à Negril a changé la trajectoire de ses recherches. La protection du sable est devenue son cheval de bataille. 2 ans plus tard, il soulignait dans une étude à quel point la quantité de sable extrait de la nature met en péril les écosystèmes marins et côtiers et à quel point la ressource est plus rare qu'on ne croit. On ne peut pas extraire, transporter et utiliser un tel volume sans effets environnementaux et sociétaux massifs, indique celui qui est également directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, GRID Genève, PNUE, GRID Genève. Au menu, érosion du littoral, perte de biodiversité, résistance moindre aux catastrophes naturelles, la demande exponentielle qui dépasse le renouvellement naturel du sable expose les pays à une pénurie à l'échelle mondiale. Déjà, en 2005, l'Institut d'études géologiques des États-Unis s'inquiétait des pénuries de sable dans le pays. La demande de sable s'est accélérée sur la planète dans les dernières décennies en raison des besoins grandissants en infrastructures, routes, barrages, bâtiments, des sociétés industrialisées. La Chine consomme à elle seule environ 56% de la quantité de sable et de gravier dans le monde. Elle a utilisé en 3 ans autant de sable que les États-Unis en 100 ans, affirme Pascal Pédouzi. Le chercheur craint d'ailleurs qu'un scénario similaire survienne sur le continent africain, où l'on prévoit un accroissement exponentiel de la population, dont une grande proportion migrera des campagnes vers les villes. Les villes africaines accueilleront ainsi 950 millions de personnes en plus d'ici 2050. Le sable est même employé pour agrandir des villes. Singapour a gagné plus de 20% en superficie grâce au sable, donne en exemple Pascal Pédouzi. Ce sable supplémentaire a été majoritairement pris en Malaisie et en Indonésie, mais ces pays ont arrêté les exportations en constatant les problèmes environnementaux occasionnés par son extraction sur leur territoire. Singapour est ensuite allé en chercher dans des pays voisins. Le grain idéal. Les fines particules de sable se forment très lentement, pendant des dizaines de milliers d'années. La plupart sont le fait de l'érosion des roches transportées par la pluie, le vent, les rivières et les glaciers des montagnes vers les étendues d'eau. La forme, la taille et la composition des grains sont donc très diversifiées d'un endroit à l'autre, comme la plage ou le fond d'une rivière. C'est ainsi qu'on peut trouver du sable noir, rose, blanc ou brun, selon les différents minéraux présents dans l'environnement. Les ressources en sable ne sont pas uniformément réparties sur la planète. Les endroits montagneux en possèdent davantage que d'autres, qui peinent à s'en procurer. La pénurie de sable se fait déjà sentir dans des États insulaires, comme les Maldives, qui disposent de très peu de cette ressource, mentionne Pascal Pédouzi. Ils ont besoin de sable pour construire des protections côtières afin de contrer la hausse du niveau des mers et doivent s'en procurer ailleurs que chez eux. De plus, tous les sables ne se valent pas. Même si les déserts comme le Sahara nous semblent être d'immenses réserves, ils ne font pas partie de la solution. Leurs grains, à force de se heurter constamment sous l'effet du vent, s'arrondissent. Si ce sable est inséré dans un mélange de béton, la forme des grains fait en sorte qu'ils ne se lient pas bien entre eux. Détaille Patrick Lajeunesse, professeur de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Le sable, ressource précieuse surexploitée, un texte d'Annie Labrecque paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science. Lorsque les compagnies minières ne peuvent extraire la précieuse matière des carrières, elles se tournent vers les rivières et le fond des mers. D'après les estimations de Pascal Pedouzi, de 3 000 à 5 000 navires aspirent du sable près des côtes. Ce sable marin possède des bonnes propriétés de rugosité et d'angularité pour une intégration dans les matériaux. Pour construire des bâtiments aussi élevés que la tour Burj Khalifa de Dubaï, il est nécessaire d'avoir du béton de haute performance et de qualité et, pour cela, il faut du sable marin et non pas du désert, illustre Damien Pham Van Bang, professeur et spécialiste en hydrodynamique et transport sédimentaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Ironiquement, la ville de Dubaï, qui s'étend sur une petite partie de l'immense désert Rub al Khali, a dû aller chercher son sable de construction en Australie. Plus fou encore, il existe une mafia du sable. Ce commerce illégal de la ressource a été signalé dans plus de 70 pays, selon une étude publiée en mars dernier dans Nature Sustainability. Les gouvernements doivent cartographier les zones où il est possible de prendre du sable et celles où ça ne l'est pas, pour en contrôler la qualité, mais aussi sécuriser des emplois, souligne Pascal Pedouzi. Cela fait d'ailleurs partie des recommandations du rapport 2022 du PNUE Sand and Sustainability, 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis, qui invite les pays à mieux surveiller l'utilisation du sable et les lieux d'extraction. Les enjeux sont clairs. Prenons l'exemple de l'extraction de sable en Indonésie, souvent effectuée de manière illégale. Elle a mis en péril une centaine d'îles indonésiennes. Cette opération a eu d'importantes répercussions sur l'environnement, observe Damien Pham Van Bang, dont l'érosion côtière et une perte de biodiversité. Ces régions sont également plus exposées aux inondations et risquent de voir leurs nappes phréatiques contaminées par l'eau salée, ce qui ruine l'approvisionnement en eau potable. Pourrait-on se passer du sable? Des chercheurs planchent sur diverses solutions, notamment la valorisation des déchets. Dans un rapport publié au mois d'avril, un groupe de scientifiques de l'Université de Genève et de l'Université du Queensland a examiné s'il était possible de récupérer les déchets miniers d'une exploitation de fer du Brésil pour en extraire du sable. Cette mine de fer doit entreposer des dizaines de milliers de tonnes de résidus par année. En étudiant l'aspect physico-chimique de ces résidus, on s'est aperçu qu'ils étaient en grande partie composés de sable, décrit Pascal Pedouzi, qui a participé à la rédaction de ce rapport. Pour transformer les résidus en sable minerai ou ore sand, on doit passer par une série d'étapes: flottaison, séparation, filtration. La forme de ces grains est à mi-chemin entre ceux du sable concassé et ceux du sable marin, ce qui permet une intégration dans l'industrie de la construction. C'est très intéressant autant du point de vue économique que sur le plan écologique. On peut même purifier davantage ces matériaux pour atteindre une haute qualité de sable et en faire du verre, ajoute M. Pedouzi. Cendres et sciure. Pourrait-on élargir cette stratégie à d'autres mines? De quoi faire d'une pierre deux coups, D'après les estimations, l'industrie minière rejetterait de 30 à 60 milliards de tonnes de déchets miniers par année. Il faut toutefois effectuer une analyse physico-chimique de chaque site, car le potentiel dépend du minerai extrait. Parmi les autres avenues possibles pour remplacer le sable, Pascal Pedouzi nomme les cendres résiduelles de la combustion des déchets ainsi que la sciure de bois qui pourrait entrer dans la composition d'un béton léger qui flotte sur l'eau. Ce sont par contre des solutions à petite échelle, souligne-t-il. Au Québec, Louis-César Pasquier, professeur à l'INRS, qui se spécialise dans les technologies de captage du CO2, a effectué des travaux pour réutiliser les résidus de construction et ceux de démolition du béton. Le sable peut être extrait de ces matériaux avec des méthodes de séparation physique. On évite ainsi d'aller chercher cette ressource en milieu naturel, dit-il. Dans tous les cas, le spectre d'une pénurie mondiale de sable représente un éventail de pistes à explorer, d'après Damien Pham Van Bang. Cela doit nous encourager à nous diriger vers le recyclage, la réutilisation de matériaux ou la recherche d'autres matériaux. Il faut revisiter nos pratiques afin de les adapter et de les rendre plus respectueuses de l'environnement, plaide-t-il. Si les plus grandes tours de ce monde sont considérées comme des chefs-d'œuvre architecturaux, il les voit sans conteste comme un symbole de la pollution mondiale et de notre consommation effrénée de sable. C'était « Le sable, ressource précieuse surexploitée », un texte d'Annie Labrec, paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vicevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.